Chapitre 2. Se conformant ponctuellement aux instructions de son patron, Denis consulte le troisième volume de l'importante histoire de Gibbon et trouve effectivement, entre les places 78 et 79, une feuille de papier de fabrication raffinée, perforée d'une quantité de petits trous de différentes dimensions. S'étant emparé subrepticement de ce curieux document, Denis se mit à réfléchir. Un morceau de papier percé d'une façon inintelligible était en lui-même une chose suspecte. Or, en Irlande, avant la suppression de la Ligue agraire, qu'est-ce que ce fait devait suggérer à un esprit investigateur, sinon l'idée de la police? Avant de rentrer chez son patron, Denis alla voir l'un de ses vieux amis, journaliste de profession, homme d'expérience et de grande érudition. Il le pria d'examiner le singulier morceau de papier et de découvrir avec quel instrument on l'avait pu perforer de la sorte. Ce lettré se montra digne, en tout point, de la confiance qu'on lui témoignait, si bien qu'en quittant les bureaux du journal, Denis, bien et dûment éclairé, était prêt à fournir des informations à Sir Gilles. Poussant un soupir de soulagement, il s'écria d'une façon irrévérencieuse « Maintenant, je le tiens !» Le banquier et Bobby tournaient la tête de droite à gauche, les yeux fixés tantôt sur le maître clerc, tantôt sur le morceau de papier. Soudain, il dit « Ma foi, je n'y comprends rien. Et vous ?» Denis, tout en conservant un air humble, demanda la permission de considérer un instant le document. Peu après, il prononça ces mots « Attendez encore un ou deux jours et le mystère sera probablement éclairci. » Le lendemain, aucun fait ne se produisit, mais le surlendemain, une seconde lettre vint mettre la patience, déjà très ébranlée, de Sir Gilles Montjoie à une épreuve nouvelle. L'enveloppe même présentait une énigme. Le timbre portait « Ardoun ». Autrement dit, le correspondant, ou son complice, s'était servi du facteur comme d'un commissionnaire, attendu que le bureau de poste n'était distant que d'une minute de marche de la maison de banque. Cette fois, les caractères illisibles semblaient tracés par la main d'un fou. Les mots, mutilés d'une façon barbare, et les phrases incohérentes n'avaient ni queue ni tête. Vaincu par la force des circonstances, Sir Gilles fit enfin à son clerc l'honneur de ses confidences. « Commençons par le commencement, dit-il. Voilà la lettre que vous avez vue sur mon lit quand je vous ai mandé pour la première fois. Je l'ai trouvée sur ma table à mon réveil et j'ignore qui l'y a mise. Veuillez en prendre connaissance. » Denis lut ce qui suit. « Sir Gilles Montjoie, j'ai à vous faire une communication qui intéresse au plus haut degré l'un des membres de votre famille. Mais, avant de rien révéler, il me faut une garantie de votre bonne foi. En conséquence, je vous prie de remplir les conditions suivantes, et cela au plus vite. Je n'ose vous donner ni mon adresse, ni signer mon nom, car la moindre imprudence de ma part pourrait avoir des conséquences fatales pour l'ami dévoué qui écrit ces lignes. Si vous dédaignez de prendre cet avis en considération, vous le regretterez toute votre vie. » Inutile de rappeler les conditions auxquelles la lettre faisait allusion. Elles avaient été remplies le jour de la découverte de l'objet cité plus haut. Primo, le tesson derrière la borne miliaire. Secondo, la feuille perforée entre les pages de l'histoire de Gibbon. Sir Gilles, un nuage au front, avait déjà conclu qu'il s'agissait d'un complot contre sa vie et peut-être aussi contre sa caisse. Le maître clerc, en homme avisé, désignant du doigt le papier perforé et le grimoire illisible reçu le matin, s'écria « Ah, si nous pouvions réussir à déchiffrer le tout, vous seriez mieux fondé à débrouiller les choses et à les tirer au clair. » « C'est juste, mais qui peut être assez habile pour cela ?» dit le banquier. « En tout cas, j'essaierai, monsieur, si vous m'autorisez à tenter la chose. » Sans sonner mot, Sir Gilles fit un signe de tête affirmatif. Trop prudent pour dévoiler d'emblée l'information qu'il avait préalablement obtenue, Denis ne se décida qu'après plusieurs tentatives à faire sa communication à qui de droit. Prenant la feuille perforée, il la plaça délicatement sur la page couverte de caractères illisibles. Mots et phrases parurent alors au travers des trous, très correctement écrits et orthographiés. Voici en quels termes l'expéditeur s'adressait à Sir Gilles. « Je tiens à vous remercier, monsieur, de vous être conformé aux conditions que je vous ai dictées. Désormais, je ne saurais suspecter votre bonne foi. Toutefois, il est possible que vous hésitiez à accorder votre confiance à quelqu'un qui ne peut vous mettre dans le secret de ses confidences. La position périlleuse où je suis placée m'oblige à attendre encore 2 ou 3 jours avant de vous fixer un rendez-vous. Surtout, prenez patience et, sous aucun prétexte, ne demandez aide et protection à la police. » Ces derniers mots, déclara Sir Gilles, sont concluants. En réalité, plus tôt je serai sous la protection de la loi, mieux cela vaudra. Portez ma carte au bureau de la police. Puis-je auparavant vous dire un mot, monsieur ? Quoi ? Cela signifie que vous ne partagez pas mon opinion ? Parfaitement. En conscience, Denis, vous êtes entêté comme un casque et votre obstination augmente tous les jours. Voyons, tâchons d'éclaircir l'affaire. Quelle est, d'après vous, la personne que désignent ces diablesses de lettres ? Le maître clerc lut la phrase du commencement. « Sir Gilles, mon joint, j'ai à vous faire une communication qui intéresse au plus haut degré l'un des membres de votre famille. » Denis répéta ces mots d'un ton emphatique et en articulant bien chaque syllabe. « L'un des membres de votre famille. » Son patron, l'air ébahi, fixait sur lui des yeux hagards. « L'un des membres de ma famille, » répétait-il de son côté. « Que diable ! Je suis un vieux célibataire endurci et je ne me connais pas de famille. »« Mais vous avez un frère, monsieur. » « Il est en France, loin, bien loin, des misérables qui me poursuivent de leurs menaces. »« Ah, que ne suis-je avec lui plutôt qu'ici ?»« Il ne faut pourtant pas non plus, Sir Gilles, oublier les 2 fils de votre frère, » dit le clerc d'un ton calme. « Même de ce côté, rien ne peut, je le sais, me donner la moindre inquiétude. Mon neveu Hugues est à Londres et n'a reçu, que je sache, aucune mission politique. » J'espère apprendre prochainement son mariage si la plus jolie et la plus excentrique des misses anglaises consent à agréer ses vœux. En somme, tout cela ne me semble pas effrayant. J'entends seulement parler, monsieur, de votre autre neveu. » Sir Gilles fit un mouvement de corps en arrière, s'esclaffa de rire, puis s'écria « Allons donc, Arthur en danger, lui, le garçon le plus inoffensif du monde. » Le seul reproche qu'on puisse lui adresser, c'est de perdre son argent à faire de l'agriculture à Kerney. Mais je vous ferai remarquer, se hâta de dire Denis, qu'à l'heure qu'il est, personne ne voudrait recevoir de l'argent de sa main. J'ai rencontré hier au marché des amis de M. Arthur. Votre neveu est boycotté. Ma foi, tant mieux, s'écria l'obstiné banquier. Cela le guérira de faire de l'agriculture envers et contre tous. C'est par trop bête. De guerre lasse, vous verrez qu'il finira par venir occuper la place que je lui destine dans mon bureau. Que le ciel vous entende, s'écria Denis avec chaleur. Cette exclamation produisit sur Sir Gilles un grand effet. Regardant son interlocuteur avec étonnement, il reprit d'un ton interrogateur. Pour l'amour de Dieu, avez-vous appris quelque chose que vous m'ayez caché ? Non pas, mais je me rappelle simplement un fait que vous avez, je crois, pardonner la liberté grande, totalement oubliée. Le dernier fermier à Kerney est parti en mettant la clé sous la porte. En conséquence, M. Arthur a dû prendre une ferme évictaine. J'ai donc la conviction bien arrêtée, poursuivit le maître clerc en s'échauffant, que la personne qui vous a écrit ces lettres connaît M. Arthur, sait pertinemment que votre neveu court des dangers et essaie de lui sauver la vie en faisant appel à votre influence au risque de compromettre sa propre sécurité. Secouant la tête, Sir Gilles reprit. « Voilà ce que j'appelle chercher midi à 14 heures. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi l'auteur de ces lettres anonymes ne s'est-il pas adressé à Arthur plutôt qu'à moi? Cet individu, apparemment, le connaît. » « C'est juste. Eh bien, alors ?» Sans se rebuter, Denis reprit. « Quand on connaît le pèlerin, l'on sait que, bien que doué de toutes sortes de bonnes qualités, le jeune homme est un braque. De plus, il est têtu et téméraire comme pas un, et si quelqu'un prétend qu'il est en péril dans sa ferme, c'est une raison pour qu'il s'y incruste. Vous, monsieur, vous avez, au contraire, la réputation bien établie d'être prudent, clairvoyant et discret. » À cette énumération flatteuse, il aurait encore pu ajouter « poltron, entêté, obtus et outrecuidant. Or, l'espèce de culte qu'il rendait depuis des années à son supérieur avait fini par envelopper son jugement d'un voile épais. Si un homme naît avec le cœur d'un lion, un autre peut naître avec l'esprit d'une mule. Or, le patron de Denis appartenait à l'une de ces deux catégories. « Très bien parlé !» répondit Sir Gilles en se rengorgeant. « Le temps nous apprendra si un individu d'aussi peu d'importance que mon neveu court ou non le risque d'être assassiné. Tout beau, Denis, cette allusion à l'un des membres de ma famille n'est qu'un biais destiné à me jeter sur une fausse piste. Le rang, l'influence sociale et mes principes inébranlables ont fait de moi un homme de notoriété publique. Allez, je vous prie de ce pas, demandez au chef de la police qu'il m'envoie tout de suite un policeman ayant déjà fait ses preuves. » Le bon Denis O'More se dirigea alors du côté de la porte. Avant qu'il eût atteint l'autre extrémité de la pièce, l'un des employés de la banque vint prévenir Sir Gilles que Miss Henley désirait le voir. Agréablement surpris, le banquier se lève allègrement, les deux mains tendues vers la jeune fille.